Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver, encore plus ravis ce soir de recevoir Jocelyne Berroir et Jacob Desvarieux pour Cassave, dans Par les temps qui courent.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Marie Richeux avec Jacob Desvarieux
et Jocelyne Berroir.
Cassave, c'est une musique qui peut réveiller les morts. Voilà ce qu'un jeune homme ivoirien avait l'habitude de dire à son ami, les deux ayant gardé de la première apparition sur scène du groupe dans un stade à Abidjan, un souvenir à couper le souffle. Mais Cassave est aussi une musique à réveiller les vivants. Quand en 1985, soit 6 ans après sa création, ils remplissent un zénith à Paris, sans soutien médiatique ou presque, c'est toute la communauté antillaise qui se reconnaît, qui danse, qui chante, donc qui apparaît. Car c'est cela la force des grands mouvements musicaux dont le zouk fait partie, la force de faire apparaître. Chanter en créole les ancêtres esclaves, chanter en créole les désillusions de celles et ceux venus trouver fortune en métropole, chanter en créole des histoires d'amour, collésérées ou non, chanter en créole tout court et chercher à toute vitesse un son pour soi n'est pas un geste anodin après l'esclavage, la colonisation et l'assimilation. Cassave, c'est toute la richesse doublée de toute l'ambiguïté française, c'est aussi quelque chose qu'on entend dans un documentaire consacré à l'histoire du groupe qui commence donc en 1979, qui fête ses 40 ans par un concert à Paris La Défense Arena samedi prochain. Une histoire dont vous êtes deux des acteurs, on pourrait dire principaux, et des témoins. Bonsoir Jocelyne Berroir, bonsoir Jacob Desvarieux.
Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus tous les deux. Ça se passe comment de préparer une fête pour ses 40 ans?
Oh, facile.
À quoi on pense?
Il faut que ce soit bien. Faut que ce soit grandiose, faut que ce soit mieux que tout ce qu'on a connu avant, faut que ce soit, etc. Alors on appelle Jocelyne, on dit vas-y débrouille-toi.
Ah ouais, c'est comme ça se passe dans Cassave.
Bah oui. Alors on me dit j'ai pas le temps.
Qu'est-ce qu'on répond au téléphone, Jocelyne?
J'ai pas le temps. Non, dans ce cas précis, Jean-Claude avait préparé une première liste. Enfin, il avait mis des idées et je peaufine. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, je mets dans l'ordre. Et on commence à travailler. Donc, ils ont commencé depuis, même avant le mois de janvier. Mais enfin, dès janvier, c'est devenu beaucoup plus intense. Préparer les sons, préparer les samples, enfin, toutes les choses, toute la technologie. Et puis, depuis 4 semaines à peu près, peut-être un peu plus, on a commencé les répétitions. Et la semaine dernière, on a fait les répétitions un peu dans les conditions. C'est-à-dire qu'on avait une immense salle pour pouvoir installer le groupe, pas le public, évidemment. Et voilà. Donc, vendredi, on va voir si tout colle. Et samedi, on tâche d'être en forme.
Voilà. Samedi, tout colle.
En principe.
Samedi, tout colle, on peut dire ça comme ça.
Oui.
On dira ça à la fin. Rien n'est jamais gagné. C'est une immense salle. Et voilà, quoi. Donc, je pense que pour tous, il y a un peu de stress. Mais bon, en tout cas, musicalement, c'est prêt. Voilà.
C'est un stress qui demeure et un plaisir qui demeure après 40 ans. 40 ans pour un groupe, c'est un grand âge. On y reviendra. Mm-hmm. C'est rare, même si le groupe connaît des allées, des venues, des restants, des partants. Il y a plein évidemment de mouvements dans la vie d'un groupe de 40 ans. Mais c'est rare. Le plaisir et l'appréhension d'un grand concert comme ça demeurent?
Oui, toujours, toujours. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements dans le groupe. La base du groupe même est restée exactement la même. Il y a eu juste un départ définitif de Patrick qui est parti en 2010. Je veux dire, il est décédé. Et puis, bon, Georges qui est parti, revenu 91 à 2003, c'est ça?
Oui.
De 91 à 2003. Mais bon, sinon, c'est juste quelques musiciens qui ont changé. Mais la base même du groupe n'a jamais changé.
Oui, je pensais aux cuivres, par exemple, qui ont été renouvelés.
Oui, c'est vrai. Que, c'est pas en 95, il y a eu un remaniement du groupe, voilà, et il n'y a pas eu trop de changements, en fait.
Et donc, sur le stress et le plaisir?
Je pense que c'est le même. Moi, que je sois fatiguée ou pas, quand je monte sur scène et que j'entends cette musique, j'ai envie tout de suite d'exprimer ma joie, quoi. Voilà, c'est ça.
Et pour vous, Jacob Desvarieux ?
Oh, moi, c'est facile. À partir du moment où il y a du monde. Bon, si la salle est vide, évidemment, bon, il y a du stress. Si la salle est pleine, pas de problème. De toute façon, dès qu'on attaque un morceau, ils chantent à notre place, donc.
Donc ça, ça fait, j'imagine, assez chaud au cœur. Ça veut dire que pour vous, le plaisir, il est dans le partage de la musique, où vous avez aussi quelque chose qui ne vous concerne que vous, dans le rapport à la musique, dans le rapport à ce plaisir-là.
Ben, c'est-à-dire qu'au départ, enfin, moi j'ai commencé la musique par le blues, où on entendait parler de notre musicien maudit, qui était des très grands musiciens, mais on l'a su 20 ans après leur mort, voire 200 ans après, aussi bien dans le classique que dans le blues ou autre. Et de notre vivant, d'entendre des gens dire ouais, c'est bien ce que vous faites, ça fait chaud au cœur quand même. Alors arriver dans la plus grande salle d'Europe ou le plus grand stade ou dans faire plein de pays, ben, je vais pas dire ça à la radio, mais enfin, on essaie de tenir la tête pour pas qu'elle enfle trop, quoi. Et
il y a eu des moments où vous avez l'impression que c'était difficile à tenir, de pas enfler, parce que bon, ouais. Ces grandes salles-là, vous en remplissiez là en 2019, mais en fait, vous en avez rempli très vite des salles de cette envergure.
Il y a eu des jours où il a fallu, oui, parce que, par exemple, imaginez que nous, on vient de deux îles qui font 450 000 habitants chacune. Bon, alors 450 000 habitants, ça fait beaucoup de monde, mais si vous venez à Paris où il y en a 12 millions, bon, bah, c'est rien du tout. Et quand vous allez dans une ville de 10 ou 12 millions d'habitants et que les gens se déchaînent quand vous arrivez... on se dit, attends, il y a un truc là. La première fois où c'est arrivé, c'est quand on a été à Abidjan, la première fois qu'on allait en Afrique. Et Abidjan, il y a un quartier d'Abidjan qui, à l'époque, avait 1 million d'habitants. Vous voyez ? Et toute la ville était derrière nous. Donc, il faut tenir la tête, il faut essayer de relativiser, quoi, pour ne pas se dire, ça y est, on est les Beatles, quoi.
Je crois que la chance qu'on a, c'est de partager le succès. Il n'y a pas qu'un seul chanteur, il n'y a pas non plus qu'un seul compositeur. Mmh. Tout le monde participe, donc quand je suis devant, tous les autres me poussent derrière. Et ça permet aussi de ne pas prendre la grosse tête. Je crois que ça, ça a été quelque chose qui nous a permis de rester un petit peu les deux pieds sur terre. Et souvent, bon, on essaie de vivre normalement. Et ce sont les gens qui nous rappellent que bon, ben en fait, on n'est pas tout à fait, pour eux, pas tout à fait normaux, quoi. Voilà. Moi, je sais que je suis normale.
Moi, je sais que vous êtes normaux.
Merci.
Dans ce film, justement, c'est marrant que vous évoquiez Jacob Desvarieux à Abidjan, parce que moi, j'ai été très frappée. C'est un film qui va bientôt sortir et qui retrace comme ça l'histoire, notamment à travers des paroles de musiciens, mais aussi, par exemple, cet homme qui est comme ça assis sur une chaise et qui se souvient de la déferlante, de la manière dont ce concert à Abidjan a changé sa vie. Il dit, moi, je comprenais pas le créole qui était chanté. Ce que je comprenais, c'est qu'il y avait quelque chose dans cette musique qui me parlait profondément et qui ne m'a jamais quitté. Pour vous, on parlera peut-être de début en région parisienne, on reviendra, hein, mais la découverte, justement, de ce public en Afrique, en Côte d'Ivoire et ailleurs, ça a été quelle étape pour Kassav?
Je dirais que c'est le début presque, en fait. C'est que c'est le truc qui n'était pas écrit, quoi. C'est-à-dire que, comme je vous dis encore une fois, hein, venant d'un tout petit pays, aller conquérir un continent, c'est pas écrit, hein. C'est pas sur les trucs qu'on voit dans les légendes, dans les films, quoi. Mais bon, dans la réalité, oui, il y a eu des exemples, mais bon, on peut pas se comparer aux Beatles ou des gens comme ça, quoi. Bon, vous venez d'Angleterre, par rapport à la France, c'est un grand pays, mais bon, par rapport aux États-Unis ou au reste du monde, c'est tout petit. Et ils ont quand même envahi le monde, quoi. Donc, nous, on s'est retrouvés un peu dans cette position-là, mais en partant d'un truc encore plus petit, quoi. et ça, c'est vrai que ça a lancé plein de trucs. Ça a lancé notamment le fait qu'on puisse passer à la télé en France. Parce qu'avant, la télé, c'était pas pour nous. Enfin, les médias, du tout.
Est-ce que vous savez pourquoi, avant, c'était pas pour vous? Avant ce grand, grand succès?
On s'est posé la question. On a eu... plein de théories qui n'étaient pas les bonnes. Hein. Genre, c'est parce qu'ils sont racistes, c'est parce qu'on est noir. Il y a plein de rappeurs qui passaient. Et puis finalement, maintenant, je dirais que peut-être parce qu'on ne chante pas en français. Donc ils sont un peu mal à l'aise avec ça.
On y reviendra évidemment sur ce geste de chanter créole. Peut-être sur ce moment à Abidjan, et ce que ça ouvre pour Kassav et pour vous personnellement.
Je me souviens de la veille du départ. J'étais allée, à l'époque c'était FR3, il y avait une émission qui s'appelait, qui passait le dimanche matin, là. Tu sais, c'était une émission qui parlait des musiques autres que les musiques européennes et américaines.
Mosaïque.
Voilà, Mosaïque. Et donc le directeur artistique m'avait dit « Oh, personne ne connaît Casablanca, etc. » Donc on y allait, mais vraiment en visiteur, quoi. On était en touriste. Et on a été vraiment très, très surpris de l'accueil et de l'engouement que les gens avaient. Le tout premier concert, c'était un concert en plus un peu VIP, puisque c'était des ministres, des gens vraiment...
Mais qui a été un poil dérangé quand même, ce concert. Il n'est pas resté que sage, hein. À un moment donné,
mais apparemment,
le reste de la salle a passé
devant. C'est exactement ça. Donc on s'attendait à quelque chose d'assez calme, avec des gens qui découvrent une musique, quoi. Et en fait, c'était la folie. Et après, on a fait un stade, le stade de Trichville, je crois, à 10 000 personnes. Pas le stade,
le Boisquier. Non. On a fait Boisquier le lendemain,
ouais, Boisquier,
je crois. 25 000.
25 000 personnes sur le stade, et on est revenu, on a fait Yamoussoukro aussi, ouais. Et puis on est revenu sur Trècheville, et là il y avait 10 000 Ivoiriens dans un espace, et on était bouche bée, quoi. C'était à chaque fois une surprise. On avait quand même fait des concerts chez nous où on avait réussi à mettre 15 000 personnes dans un stade, mais pour nous c'était normal chez nous. Et là-bas, c'était vraiment époustouflant. Ouais. Et peu de temps après, on faisait le Zénith. Le Zénith qui était plein 2 mois à l'avance. On avait choisi, en fait, Pierre-Edouard avait décidé qu'on ne ferait pas un deuxième pour pouvoir en faire plus l'année d'après. Effectivement, l'année d'après, en 86, on a fait 4 Zéniths d'affilée. Et ça devenait une espèce de stratégie. En fait, ça nous a ouvert les yeux sur les possibilités du groupe. Et d'ailleurs, l'Afrique s'est complètement ouverte à Kassav, parce qu'en 85-86, on a écumé... on est parti dans presque toutes les capitales d'Afrique. Et c'était pour nous un enchantement, quoi, un grand bonheur.
C'était voilà. Plutôt des jeunes gens, c'était plutôt des gens de toutes les générations qui se reconnaissaient, parce qu'il faut quand même dire que Kassav, bien sûr, pouvait parler à des reconnaissances dans l'oreille de musique très traditionnelle, mais inventait un son extraordinairement nouveau. Parce qu'il y a plein de gens qui se disaient « Ok, ça sort d'où ? Quelle machine fabrique ça ? Quel corps humain ? Quelle oreille ?» Donc est-ce que vous réussissiez aussi à toucher des anciens, ou est-ce que c'était vraiment des jeunes qui étaient à l'affût de nouvelles sonorités?
Toutes les générations étaient à l'affût de nouvelles sonorités. Toutes les générations venaient voir Kassav. Les gens venaient carrément en famille, presque. Disons que bon, c'est uniquement ceux qui avaient vraiment du mal à marcher, qui n'allaient pas sur les stades ou les choses comme ça. Mais tous les gens venaient voir Kassav. Je crois que ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose qui les réveille. Et chez nous, en fait, les personnes qui restaient réticentes, mais qui sont venues à Kassav après, au fur et à mesure, sont plus les gens un peu intellectuels qui avaient besoin de machin.
Comme ils avaient
jazz,
besoin de quoi?
C'est des choses comme ça, quoi. voilà. Donc c'est, les arrangements de Kassav sont quand même assez sophistiqués quand on écoute convenablement. Les vrais musiciens s'intéressaient à la musique de Kassav parce que justement il y avait des choses, il y avait une combinaison étonnante, des arrangements qui les interpellaient, quoi. Voilà.
Ça faisait partie de l'équation du départ, 1979, je dis création du groupe, il fallait trouver un nouveau son, Jacob Desvarieux.
Mais c'était la base, en fait, c'est pour ça que ça a été créé. C'était pour trouver un nouveau son, un nouveau nom, enfin, quand je dis nouveau, c'est-à-dire que quelque chose qu'on n'a pas encore fait, parce que bon, quand on est musicien, évidemment, on essaie de faire quelque chose que les copains n'ont pas encore fait, évidemment, hein. Qui soit reconnaissable, c'est-à-dire que dès que vous l'entendez, vous dites ah ça c'est un truc qui vient des Antilles françaises, voilà. Quand vous entendez du reggae, bah oui évidemment ça vient de Jamaïque. Ça peut être un Chinois qui chante, mais ça vient de Jamaïque. Voilà, ben nous on voulait ça, mais pour les Antilles. Et en plus comme c'était l'époque où il y avait la world music, qui pour nous, on n'a même pas eu besoin de traduire, pour nous c'était la musique du tiers monde, où il y avait quelqu'un du tiers monde qui chantait sur une musique anglo-saxonne normale, quoi. Bon, ben nous on voulait pas ça. Nous on voulait la musique de chez nous, chanter dans la langue de chez nous, mais que ça touche le reste du monde. Alors c'était très ambitieux, évidemment.
Et c'était quelque chose qui manquait? Il n'y avait pas cette musique de chez vous, chantée dans la langue de chez vous?
Il y avait, mais elle passait pas les frontières.
Et puis elle était aussi, elle avait une consonance un peu doudouiste, quoi. C'est-à-dire que c'était une musique qui maintenait l'illusion, en fait, de l'idée de ce que les gens avaient de nous, c'est-à-dire les cocotiers, la plage, le boudin, les acras, les jolies filles, les doudous, etc., etc. Mmh. Et ça, on voulait sortir de ça aussi.
Sans répondre à ce qu'on pouvait attendre de cette imagerie, en fait.
Ouais. Exactement, il fallait s'en éloigner. Et surtout, c'était impératif, parce que c'était... je crois que il y avait une évolution partout, quoi. On connaît l'histoire des Antilles, enfin plus ou moins, certains la connaissent. Je veux dire, on est passé par plein de trucs et on a surtout été éduqués, même de façon silencieuse, sur le fait que on est limité. Voilà. Et nous, c'était, on va dépasser les limites, on va casser les barrières, on va ouvrir les portes, et c'était un petit peu le leitmotiv, quoi. Donc, au départ, il fallait travailler. Donc, on a travaillé. Et en fait, il y a des magiciens comme Jacob, Georges, Jean-Claude, Pierre-Édouard, etc., qui ont contribué.
Vous êtes magicien de quoi, vous, Jacob Desbarrieux?
De rien du tout. On a eu de la chance. Disons que, il y a une combinaison de gens. Quand la combinaison s'est faite, on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, quoi. Vous voyez, la musique, c'est ça, en fait. C'est que vous mettez des gens ensemble qui parlent pas la même langue ou qui n'ont rien d'autre de commun, c'est pas grave. Mais dès qu'ils vont jouer quelque chose, ils seront tous surpris parce que, justement, ils se connaissent pas. Donc, ce sera quelque chose d'inattendu. Et ça peut être génial comme ça peut être nul. Bon, là, on a eu de la chance. C'était bien.
Vous mettez des gens, vous mettez de la musique ensemble et peut-être vous mettez aussi une époque. Je pense que c'est intéressant de se souvenir de ce que c'est que à la fin des années 70, le début des années 80 aux Antilles françaises. Vous parliez de travail. C'est pas anodin que le travail que vous faites pour obtenir ce son et cette musique aille de pair avec des soulèvements, des jeunes personnes qui soulèvent pour... Ouais. Aussi avoir leur propre travail, interrogent leurs conditions de travail, interrogent leur rapport à la métropole. Est-ce que vous voyez qu'il y a une sorte de coïncidence dans cette temporalité qui a fait qu'il y a eu plus que de la chance, Jacob Desbarrieux?
Oh, c'est plus qu'une coïncidence. Voilà. C'était la racine même de l'idée, quoi. C'est qu'il y avait les mouvements identitaires. Et les mouvements identitaires appellent tout de suite, mais qu'est-ce qu'on fait là? Bon, c'est facile, hein. Bon, tous les Noirs viennent du même endroit. C'est de l'autre côté de la mer. Bon, on sait comment on est arrivé. Et puis de là, il faut qu'on fasse quelque chose pour ne pas être simplement des gens qu'on a déposés quelque part, quoi. Donc, on a commencé à chercher dans les racines de ce qu'il y avait là, au lieu d'imiter des choses qui venaient d'ailleurs. Et puis, voilà, il fallait qu'on se développe, il fallait qu'on fasse savoir qu'on existe, il fallait qu'on... Voilà, on était très ambitieux, on pourrait dire on était mégalo. Ça a marché.
Voilà.
C'est vrai que dans un autre temps, on aurait dit, ouais, attends, les mecs, ils se la pètent, là, ça y est, c'est fini, quoi. Non, on voulait exister. Et tant qu'à faire, amener ce qu'on a vers le reste du monde, et pas l'inverse.
Il ne faut pas oublier que, à la radio, à cette époque-là, je veux dire, on n'avait que quelques heures de musique de chez nous, même, à la radio, et que la musique dominante, en tout cas dans les bals et les choses comme ça, c'était la musique haïtienne, essentiellement. Les musiciens, souvent, soit avaient des noms à consonance... espagnol comme la Perfecta ou des choses comme ça, ou prenait des noms d'animaux qui n'existent même pas chez nous comme les jaguars, les léopards, des trucs comme ça. Donc il fallait vraiment qu'on se présente en disant voilà qui nous sommes. Je crois que c'était ça qui était important.
Et ça passait par un nom. C'est intéressant aussi de voir que, par exemple, dans un précédent orchestre qui s'appelait les Vikings, d'un seul coup, là aussi, c'était revendiqué un héritage extrêmement bizarre, tout comme l'école française a appris pendant longtemps que les ancêtres gaulois, d'un seul coup, il fallait trancher et dire nous sommes autre chose. Alors, c'est quoi cassave? Ça veut dire quoi cassave?
Cassave, c'est une galette de manioc. Le manioc, c'est une racine qu'on retrouve en Amérique du Sud, dans toute la Caraïbe, en Afrique et en Asie. C'est le pain du pauvre quelque part. La cassave est râpée. Il y a toute l'histoire autour qui est que pour pouvoir manger la cassave de chez nous, il faut la faire tremper, pouvoir en extraire un poison. Et la musique, quand Pierre-Édouard est arrivé, les premiers mots qu'il a dit, on a de la musique chez nous, on a de la bonne musique chez nous, mais c'est pas propre, c'est pas bien réalisé, les studios... Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, si vous vouliez étudier la musique, vous ne pouviez étudier que la musique classique. Donc piano classique, violon, guitare classique, etc. Si vous vouliez apprendre à jouer la musique du pays, vous appreniez tout seul. Ou avec un autre musicien qui avait déjà des bases, mais que lui avait créé tout seul aussi. Donc c'était jamais bien réalisé, donc il fallait rendre la chose audible, que celui qui l'entend dise éventuellement « ouais, c'est pas ma tasse de thé », mais qu'on lui interdisait de dire « c'est pas bien réalisé ». Voilà, donc c'était un peu ça. C'était qu'il fallait que ce soit bien réalisé, et puis personnel. C'est-à-dire que ça ne n'aille pas puiser ailleurs, mais seulement chez nous. Voilà.
Le chez vous étant à entendre comme chez vous, vous tous qui composiez déjà Cassave, plus un chez vous antillais.
C'était la base des Antilles, parce qu'en fait, quand on parle des premiers musiciens, les trois premiers, en fait, c'était Pierre-Édouard, Jacob et Georges. Mais il y a eu Jean-Claude qui est arrivé. Et Jean-Claude est de la Martinique, les autres sont de la Guadeloupe. Jean-Philippe est de Martinique aussi, donc il a amené sa touche un peu martiniquaise. Moi, je suis de la Martinique. Patrick Saint-Éloi était de la Guadeloupe. Bon, donc c'était un mélange. Et en fait, on se comprend, Martinique et Guadeloupe. On est toujours en guéguerre, mais bon, on se comprend. Voilà, donc c'était, quand on parle de chez nous, pour moi, qu'on dise que c'est la Guadeloupe ou la Martinique, moi, ça me pose aucun problème. Aucun.
Voilà. Quand vous dites, Jacob Desvarieux, il fallait d'abord aussi écouter et prendre conscience de la musique qui existait, alors pas forcément la musique réalisée là dans des studios qui n'étaient pas à votre goût, mais peut-être encore de la musique plus ancienne. Il y a un des titres qui est très populaire et qui rend hommage à un musicien qu'on appelait Tivelo, et qui jouait un tambour très particulier, qui relie quand même avec des musiques, pour le coup, très très anciennes. En quoi est-ce que ça a été digéré et réinterprété par Cassave?
Mais c'est-à-dire que pour faire de la musique, la première chose, c'est déjà d'écouter tout ce qu'on a fait avant vous. Déjà, vous pouvez dire, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aime pas, bon, ok, d'accord, mais au moins savoir que ça existe. Parce que si par hasard, vous savez combien il y a que 12 notes, si par hasard vous arrivez à la même combinaison que quelqu'un qui l'a fait ça 200 ans avant vous, que vous n'arrivez pas en disant, ça y est, j'ai inventé quelque chose. Vous voyez? Alors que c'est juste un truc que vous avez entendu, vous étiez bébé, vous vous rappelez plus, et vous le ressortez en disant, bah, tiens, regarde, j'ai inventé ça. Ah, maintenant, ça c'est du Mozart. Bon, donc il fallait déjà écouter ce qui s'était passé, et nous on a voulu aller même plus loin, aller fouiller, parce qu'on n'a pas d'archives vraiment chez nous.
Discographique.
Hein, bon. Voilà. Donc on a été chercher les gens les plus vieux, leur demander des renseignements, même pour la langue, même pour les paroles. Quoi. On demandait comment on disait ça à l'époque, parce que comme toutes les langues, hein, comme le français aujourd'hui, essayer de parler français sans mettre de mots d'anglais, ça va être difficile, parce que c'est passé dans le langage courant. Ben, nous, pour parler créole sans mettre du français, vraiment français dedans, difficile. Alors, on a été chercher pour les mots, on a été chercher pour la musique, on a écouté Vélo, bon, qui est encore vivant, mais qui était, comment je pourrais dire ça, une référence sur place. On a écouté tous ceux qui ont fait quelque chose avant nous, et puis on a dit, bon, comment est-ce qu'on peut moderniser ça, arriver à en faire quelque chose, comme ça s'est passé en Europe, par exemple. Les musiciens classiques, 200 ans après, il y a des musiciens de rock qui sont arrivés et qui ont repris Chopin, Vivaldi, n'importe qui, et puis ils ont réussi à en faire quelque chose d'autre.
Vous parlez des choses qu'on entend bébé, dont on se souvient, vous entendiez quoi, vous, bébé ou enfant, tous les deux?
Sheila, Stone et Chardin, Johnny Hallyday, c'était ça qu'on avait essentiellement chez nous. Quand on voulait écouter autre chose, c'est qu'on avait des copains qui voyageaient ou qu'on avait voyagé soi-même, quoi, je veux dire. On est à un carrefour, on recevait pas mal de choses, mais la radio, c'était la radio française. Déjà, quand on se levait le matin, il y avait...
5h30, la Marseillaise.
Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, bon, on était formatés. Ouais. Vraiment formatés, on devait devenir de bons petits français, et ça a raté, quoi.
Et vous, qu'est-ce que vous avez écouté enfant, Jacob Desvarieux, pareil?
Pareil, c'est-à-dire qu'il y avait la radio déjà, quoi. Parce qu'on est la France, hein. Bon. Et puis, bon, il y avait des trucs qui sortaient des autres îles, parce que, en fait, toutes les îles qui sont autour de nous dans la Caraïbe, bon, elles sont soit anglaises, hollandaises, espagnoles, avec des influences différentes. Donc on entend leur musique qui arrive, on entend, on enregistre. Parce qu'à l'époque, enfin, moi, en tout cas, j'avais pas l'intention de devenir musicien, donc j'ai entendu des trucs. Après, bon, j'ai eu la chance de voyager, je suis allé en France, au Sénégal, où je suis resté 2 ans, mais c'était, j'avais 12 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'ai entendu des musiques, bon, vous savez, quand on est gamin, on comprend toutes les musiques, on comprend toutes les langues, bon. Mais c'était très différent de ce que j'avais entendu avant, mais bon, c'est de la musique. Puis après, c'est en partant du Sénégal que j'ai commencé à faire de la musique, et là, tous ces trucs-là sont restés, puis ils sont revenus un peu comme... je pense tous les enfants, quoi, quand ils entendent leurs parents parler, ils entendent des mots, ils comprennent pas ce que c'est. Puis c'est le jour où ils viennent faire une déclaration d'impôt, une chose comme ça. Bon, là ils se rappellent, ah, TVA, ouais. Voilà, la musique c'est pareil, ça vous nourrit. Alors bon, en plus dans les pays comme les Antilles ou l'Afrique, il y a de la musique tout le temps, partout. Et c'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire, vous allez chez le coiffeur, il y a de la musique. Vous prenez un taxi, il y a de la musique. Vous allez à la poste, il y a de la musique. Vous allez quel que soit l'endroit où vous allez entendre de la musique. Des musiques différentes, de la musique. Et ça reste. Alors après, on dit qu'on a le rythme dans la peau. C'est pas du tout ça. C'est qu'on entend de la musique rythmique depuis qu'on est gosse.
Et vous, elle arrive comment, la musique? Ou à partir de quel moment vous décidez d'en faire votre vie, Jocelyne Berroir?
Ah, dès que j'ai été autorisée à utiliser l'électrophone de mes parents et fouiller dans leur discothèque, donc j'ai trouvé des choses comme Brel... Myriam Makeba, Barbara, Piaf, Mahalia Jackson, et les écouter, écouter les textes, écouter les émotions, enfin recevoir les émotions qui diffusaient. Moi, ça m'a donné envie de chanter depuis toute petite. Hein. Donc, j'ai commencé à apprendre avec mon frère qui jouait un petit peu la biguine au piano. J'ai commencé à apprendre toutes les chansons traditionnelles de chez moi. Et je chantais pendant les fêtes familiales, comme ça, pour m'amuser. Mais je n'avais pas l'intention d'en faire mon métier, en fait. Je suis venue ici faire des études de pharmacie, vous voyez. En fait, c'est toujours une histoire de médicaments, n'est-ce pas?
Ben oui.
Bon, bah, je ne sais pas comment dire à quel point vous donnez une transition pour ce morceau qui fait lever tout le monde. Donc, quoi, plus de 35 ans après?
Oui. One way.
Culture.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Jacob Desvarieux.
Et Jocelyne Béroir.
Chanson, évidemment. Est-ce qu'il y a toujours cette chanson dans les concerts que vous donnez de Kassav?
Jusqu'à maintenant, oui.
Est-ce que parfois vous vous posez la question de l'enlever?
Non, une fois il y a eu une originalité, on a voulu commencer par ça. C'était une proposition d'un des musiciens et le lendemain on a remis à la fin.
C'est vrai.
C'est un peu l'hymne de fin, c'est-à-dire que quand on joue ce morceau-là, c'est fini ou presque fini. Il peut y avoir un titre derrière, plus calme, mais en général, on finit par cette chanson tous nos concerts.
Et à Paris, au Zénith, en 1985, elle se trouvait où, cette chanson-là?
À la fin, je pense.
C'est déjà la fin,
je ne m'en rappelle plus.
Non, ça fait longtemps, vous ne vous rendez pas compte, c'était au siècle dernier.
Bien sûr que ça fait très longtemps.
Je pense que ça devait être à la fin.
En tout cas, elle est reprise. Elle est reprise par des milliers de personnes qui sont là et peut-être auxquelles vous ne vous attendez pas.
Ah, ça, c'est clair.
Oui. Ça arrive souvent.
Il y a une version au balafon, d'ailleurs, qui traîne sur Internet depuis des années. Maintenant, il y a la prise de vue est différente.
Oui, mais
c'est reparti, tout le monde nous l'envoie.
Non, quand je dis reprise, c'est le public qui le chante ce soir-là.
Oui, bien sûr.
Oui, parce qu'il y a aussi plusieurs versions. Il y a Bob Sinclair, il y a plein de gens qui ont repris la chanson. Mais le public, à chaque fois, oui, c'est vrai que c'est une chanson qui a un peu marché.
Mais je crois que c'est le titre le plus connu de Kassav dans le monde. Je crois que c'est le titre le plus connu dans le monde.
Vous imaginez,
ça a été fait. Et qui dit quoi?
Ben, ça dit que malgré... moi, je demande comment ça se fait que malgré tous les problèmes qu'il y a, je veux dire, il y a la crise chez nous comme partout, quoi. Mais comment ça se fait que vous avez toujours la banane, ça va, quoi? Les gens me répondent, ouais, nous on a le zouk comme médicament, alors ça nous permet de, pendant le temps que ça dure, pendant le temps du morceau, bon, d'oublier un peu nos problèmes.
Pourquoi
c'est notre médicament.
Vous avez été sur le point, ou vous avez un petit peu étudié la pharmacie, c'est quoi comme médicament? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Ça marche le temps d'un morceau, hein?
Oui.
Mais ça marche. On est obligé de constater que ça marche.
Ah oui.
Et d'abord, et puis il n'y a pas de contre-indication. C'est bio, quoi. Ouais. C'est bio.
Ouais, on est en train de se battre pour que ce soit remboursé par la sécurité sociale.
Ce serait pas mal.
Bon, c'est difficile, mais on y arrive.
Il y a des trucs chimiques beaucoup plus nocifs que le zouk.
C'est clair. Et pour le même résultat.
Et pour un résultat parfois similaire, ouais, en effet. Mais si on essaye de se poser la question vraiment, pourquoi c'est un bon médicament?
Pourquoi ça
réveille les morts, comme disait ce jeune homme?
C'est arrivé à une période où la musique, en fait, en tout cas la musique européenne, était basée surtout sur le... Comment dire? Comme la musique, c'est de l'émotion qu'on envoie aux gens. Ça s'arrêtait surtout sur le mal-être des artistes, le côté qu'ils sont presque tous suicidaires et qu'il faut qu'ils vous fassent passer leurs angoisses et tout ça. Et puis nous, on est arrivé, on a dit oui, bon, il y a plein de problèmes, d'accord, mais enfin bon, nous on voit le côté positif des choses. On essaie de dire, on va peut-être trouver une solution, ou je sais pas, enfin, même s'il y a des problèmes, en tout cas, il faut pas mourir pour ça, il faut essayer de survivre et d'autres. Peut-être qu'à un moment donné, on trouvera un remède quelconque ou ça va peut-être changer, ou peut-être que les politiciens vont ouvrir les yeux, ou je sais pas. Enfin, il y aura bien une solution un jour, donc faut pas mourir avant.
Mais pas que, il n'y a pas que, vous n'avez pas que chanté avec Kassav le fait que la vie de toute façon sera belle. Vous avez aussi chanté que des hommes et des femmes sont montés dans des bateaux enchaînés. Vous avez chanté que parfois on quitte les Antilles en pensant trouver en métropole une vie douce, heureuse et enrichie. Et on se retrouve à faire des travaux difficiles et laborieux.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres genres de musique, on se contente de faire l'état des lieux, de dire ouais ça va pas, t'as vu, nous on est venus, on a fait ci, on a fait là, et puis ouais ça va pas. Bon, nous, on essaie de trouver quand même un côté positif en disant ça va pas, certes, mais on est encore vivant, on va peut-être trouver une solution.
Puis on a, je crois que chez nous, on a l'habitude des catastrophes aussi, enfin, parce qu'on quand on parle des Antilles, on se dit toujours oui, il fait beau, il y a la plage, le machin là. Et il y a des cyclones aussi, qui détruisent pas mal de maisons. Il y a des tremblements de terre qui font beaucoup de dégâts. Il y a des tas de choses comme ça et on se relève toujours. Donc je crois que bon, on a l'art de la dérision aussi, on aime se moquer de nous. Déjà, les périodes hantées, je veux dire, c'était si on n'avait pas cette force de caractère, si on ne savait pas justement se dire bon, demain un autre jour, il faut tenir quoi. Voilà. Et puis pas rire évidemment. Il y a des moments de douleur où on peut pas franchement se moquer. Mais bon, c'est On a cette habitude quoi de toujours se relever et pourquoi ne pas le faire avec le sourire. Donc je crois que Pierre-Édouard, ça a été aussi dans sa ligne de conduite, il avait dit que il fallait garder ce côté gai de la musique même pour parler de choses douloureuses. Alors évidemment, il y a des thèmes où on va sentir où la musique va passer en mineur, où on va sentir quand même qu'il y a un peu plus de gaieté quoi. Voilà, moins de gaieté, il y a un peu de tristesse, il y a un peu de ces choses-là, mais bon, ça dure pas longtemps. Parce que la musique, malgré tout, si vous n'écoutez pas les paroles, elle vous entraîne et c'est pas grave. Ça sera une mélancolie, mais une mélancolie positive. Voilà.
C'est-à-dire qu'on a survécu à tellement de choses. Alors c'est vrai qu'on parle toujours des Antillais en disant « Ouais, ils ont toujours la banane, ils sont toujours contents, genre ils foutent rien, quoi. Ben, » bien sûr. Mais on voit jamais tout ce à quoi on a survécu. Et quand on a survécu à tout ça, le reste paraît... Bon, c'est pas grave, on est encore vivant.
Et il y a une chose supplémentaire, c'est que dans les textes, on se fait le devoir de ne pas laisser quelqu'un dans la douleur. C'est-à-dire que si on parle de quelque chose qui est négatif ou triste, on va donner...
La chanson vient la chercher ou le chercher à la fin pour...
Oui, pour lui donner une issue de secours. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « il faut faire ça », mais lui dire « ce petit chemin-là, peut-être qu'il va t'amener là-bas, prends-le ».
Je disais en introduction que les mouvements musicaux, et le zouk en est un exemple puissant, fait apparaître des gens. Tout à l'heure, vous parliez du jazz. On peut considérer qu'il y a des grands musiciens de free jazz noir américains qui sont apparus dans leur nouvelle liberté avec cette musique-là. En 1985, il y a des gens qui disent, en gros, ce concert-là ou la musique de Kassav, c'est aussi une manière de dire, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui vivent à Paris, qui sont en Île-de-France et qui viennent des Antilles. Il y a même des enfants qui sont nés à Paris et qui viennent des Antilles. Ils sont là. Ouais. Il se trouve qu'ils sont réunis dans une salle de concert, mais qu'habituellement, ils vivent dans cette ville, ils travaillent dans cette ville, ils s'aiment dans cette ville. Est-ce que vous aviez conscience que aussi cette musique allait être une sorte de révélateur chimique pour rendre visible une communauté ?
Il y a un petit peu quand même, parce qu'en fait, faire le Zénith, on savait très bien qu'aucun groupe, en tout cas des Antilles, n'avait fait de concert au Zénith. C'était quand même une salle qui était mythique. C'était à l'époque la plus grande salle de Paris. Mmh. Et c'était un pari. Faire ça, c'était un vrai pari. Le réussir, je veux dire, c'était la réussite pour toute la communauté. Et les jeunes qui viennent après se sont dit, ce qu'Assaf l'a fait, je peux aussi faire. Donc ça donnait aux gens vraiment déjà l'impression d'exister. Et puis, ça les boostait pour arrêter de se dire « Ouais, mais comme je viens de là-bas, ça va être difficile, on va pas me laisser passer compagnie. » Non, on peut. Voilà, c'est le « Yes, we can », mais en créole.
I told Marcus I gave him the record of Kassou.
J'ai donné à Marcus un album d'un groupe qui s'appelle Kassou. Vous en avez entendu parler ? Ils font un rythme qu'ils appellent Zouk. Un style qu'ils appellent Zouk. Ils ont une section de cuivre française. Ça sonne afro-cubain, mais... Ils mettent de la samba et de la rumba ensemble. Des beats africains, du rock contemporain. Et ça sonne bien. Donc je l'ai donné à Marcus. Il est supposé être en train d'écrire. Il m'a donné sa parole. À l'époque, je travaillais avec Miles Davis. Un jour, il m'appelle et me dit « Mec, jette une oreille à ce groupe qui s'appelle Kassal. » Je lui dis « Kassal, comment t'écris ça ?» Il me dit « J'en sais rien. Mets la main dessus, écoute, c'est mortel. » J'en avais jamais entendu parler. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé Kassav. C'était incroyable. Et je lui ai dit, au fait, Miles, c'est Kassav avec un V à la fin. On a pris quelques éléments et on les a utilisés sur un album de Miles qui s'appelle Amandla. Ça, c'était l'influence de Kassav. Et depuis, je connais Kassav et c'est devenu comme un de mes groupes préférés. Je dois admettre, je ne les connaissais pas du tout. Mais c'est ce qui est génial. La musique t'ouvre des horizons et tu commences à apprendre des choses sur les Antilles françaises et leur connexion à l'Afrique. Ça t'ouvre tout un monde.
Voilà, c'est quand même pas n'importe quoi, Marcus Miller et Miles Davis qui se disent que non seulement c'est un grand groupe, mais qu'en plus, ça ouvre des nouveaux mondes, des grands musiciens comme ça. C'est un extrait d'un documentaire que Benjamin Marquet a consacré à Kassav et à l'histoire de 40 ans. En fait, à toutes les échelles, à chaque fois, vous apparaissez comme une forme de révélateur. De révélateur d'une histoire, de révélateur de ce que sont les gens, de révélateur de ce qu'ils n'ont jamais osé être. Quand vous entendez deux personnes comme ça dire de Kassav que c'est devenu leur groupe préféré, ça fait quoi, Jacob Desvarieux ?
Waouh !
Ça va la tête, dont on parlait tout à l'heure ?
Justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut tenir la tête pour pas qu'elle enfle, quoi. Parce que Miles Davis, quand même, Marcus Miller, et c'est même pas pour dire que ce sont des gens qu'on a rencontrés, qui sont un peu copains, ils nous passent la pommade, quoi. On les a jamais rencontrés. Franchement, je pensais pas qu'un jour, j'entendrais des gens de ce niveau-là parler de moi ou parler de la musique qu'on fait de cette façon-là, quoi. Franchement, je vois qu'aujourd'hui, je vois les gamins aujourd'hui, ils nous croisent dans la rue. Ouais, on peut faire un duo avec vous. Bon, nous, à notre génération, on n'avait pas ça. On n'y pensait même pas. On se disait, mais c'est si on arrive à les approcher déjà, on est béni des dieux. Alors, leur parler, alors j'en parle même pas. Et puis leur demander de faire quelque chose avec eux musicalement. Mais non. Pour rêver. Là, jusqu'à maintenant, bon, moi, j'ai entendu, hein, j'ai vu le film, j'ai le bouquin, je ne l'ai jamais lu, le bouquin de Miles Davis. Je l'ai, à chaque fois que je le regarde, je dis, faut que je le lise quand même. Mais je veux pas le lire parce que j'arrive pas à y croire.
Et pour vous?
Moi, évidemment, c'était étonnant. Le plus étonnant, ça a été que Miles Davis est venu nous voir en concert à New York. Mais je crois qu'on jouait avec Tabou Combo, je crois, et Tabou Combo jouait en première partie. Enfin, je sais plus, il y avait un autre groupe qui jouait avant nous. Et c'était quand même assez long parce que c'était des concerts où il y avait carrément deux groupes et chaque groupe jouait presque 2 heures, quoi. Donc, il a écouté le premier groupe, il attendait désespérément et quand on est arrivé sur scène, lui, il devait partir parce qu'il avait un autre rendez-vous. Il ne savait pas qu'il y avait deux groupes et voilà. Donc, il n'a entendu que quelques chansons et on n'a pas eu l'occasion de le rencontrer. Voilà, donc c'était une petite frustration, déception, voilà. Mais bon, évidemment, on est les premiers étonnés quand on entend tout ça. Et ça fait du bien, ça fait plaisir.
Et quand on passe de Miles Davis à ceux que vous appelez les gamins, Jacob Desvarieux, il faut quand même parler d'une scène, on va dire française, mais parce que c'est peut-être celle que je connais plus, qui en effet va aujourd'hui produire de la musique, ou bien rappée, ou bien chantée, avec des prods et des samples qui vont être assez proches de ce que vous avez pu faire, ou retravailler des choses que vous avez pu faire, comme si cette musique-là, elle avait aussi fait son chemin jusqu'à, on va continuer de les appeler les gamins, des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ont aujourd'hui 18-19 ans et qui vendent beaucoup de disques et ou font plein de vues sur YouTube.
Ben oui, moi je dis des gamins, parce que moi j'ai 63 ans, donc des gens qui ont 20 ans, évidemment, j'ai des enfants qui sont plus grands que ça. Oui, mais c'est vrai que, bon, on a eu 20 ans aussi, mais à cette époque-là, on ne voyait pas les choses comme ça, on n'imaginait pas approcher les grands de ce monde. Bon. Oui, alors je ne me considère pas comme dans les grands de ce monde, mais je veux dire qu'on n'imaginait pas approcher même des stars régionales, quoi. Oui, bon. Donc,
vous vouliez faire juste votre musique pour vous et par exemple faire des duos ou travailler avec d'autres gens, c'était pas ce que vous cherchiez?
Non, c'est-à-dire qu'on rêvait de ça, mais enfin, même, on rêvait même pas. On savait que c'était impossible. Donc voilà, c'est comme si on dit, on admire les gens qui font des fusées pour aller sur Mars, mais on n'ira jamais sur Mars. Bon, voilà, nous, en tout cas, c'est pas nous qu'on va appeler. Voilà, bon. Là, c'était pareil. Moi, quand j'écoutais Miles Davis ou Stevie Wonder, même si on m'avait dit, mais tu sais, un jour, tu vas jouer avec eux, ça ne sera pas, non? Ça, c'est le truc impossible. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé, c'est devenu beaucoup plus facile.
Il y a une chose aussi que tu disais qui était intéressante, puisqu'on parlait justement de cette musique qui est reprise et qui va ailleurs. C'est, moi, j'aimais beaucoup cette phrase-là que tu aimes souvent dire et que je ne t'ai pas encore entendu dire.
C'est bon signe. Quand on commence à ne pas dire ce qu'on a l'habitude de dire, c'est bon signe.
C'est que le zouk, à partir du moment où on a créé une musique, elle ne nous appartient plus.
Ouais.
Voilà. Donc après, les autres la prennent. Et en Afrique, notamment, quand on voit dans les pays lusophones, comme l'Angola, qui a d'ailleurs un musée du zouk, je veux dire, il y a, on voit vraiment que cette musique a fait des petits. C'est exactement comme le blues qui donne U2 à un moment, quoi. Donc c'est
ça évolue, ça donne
d'autres musiques. Je pense que c'est gagné comme ça.
Oui. Et pour autant, est-ce que ça ouvre sur la connaissance dont parlait Marcus Miller, qui dit c'est aussi par le zouk que j'ai appris l'histoire des Caraïbes, l'histoire des Antilles françaises. Tout à l'heure, vous disiez Jocelyne Berroir. On connaît très bien les histoires des Antilles, mais est-ce qu'on la connaît si bien, cette histoire-là ?
Non, justement. J'ai dit, enfin, certains connaissent. Mais justement, aux Antilles, on a appris, nos ancêtres les Gaulois, l'histoire de France et les affluents de la Seine, droite et gauche. Et bon, en France, on n'a pas trop appris la Martinique. Il y avait une époque où les gens demandaient combien d'heures de train pour arriver en Martinique, quoi. Donc, c'est comme ça. Peut-être parce qu'on est tout petit, peut-être parce qu'on était des second class citizens, peut-être parce que bon, c'était trop compliqué, peut-être parce que c'était trop douloureux pour tout le monde, etc., etc. Donc il y a plein de raisons qui font que, avec la musique aujourd'hui, on sait, et si on, avec Internet, si on veut savoir plus, on peut aller chercher là-bas et éduquer les enfants différemment et peut-être éradiquer un tas de tares qu'on maintient ici et là, comme le racisme, par exemple.
Voilà.
Mais oui, complètement. Moi, je dis pas, on n'est pas à part, personne n'est un saint, hein. Donc, je veux dire, tout est à réparer partout. Je veux dire, la façon que nous avons, nous, de nous considérer, de nous déprécier quelquefois, mais la façon qu'ont les autres, justement, de nous voir et qui est complètement fausse, qui est à revoir, qui est, etc. Je crois que si on prend le temps de connaître l'autre, quel que soit le pays d'où il vient, on prend le temps de l'apprécier.
Et ça, c'est une possibilité qu'offre la musique. Il n'y a pas très longtemps, à votre place, il y avait une réalisatrice que vous connaissez un peu qui s'appelle Ozan Palsy et qui le travaille par le cinéma. Et Ozan Palsy disait qu'elle avait fait de sa vie et de son art un moyen à part entière, justement pour travailler cette histoire, pour, à travers des grands films comme Rue Cazenègre et d'autres, essayer de faire apparaître des individus à égalité ou se battant pour leur propre égalité. Quand quelqu'un en Côte d'Ivoire, je reprends toujours cet homme parce qu'il m'a marqué dans le documentaire, mais dit « je chantais cette musique sans en comprendre les paroles », moi j'ai quelque chose en moi qui me dit qu'il y a quand même quelque chose qui passe.
Ben oui.
Ah bah oui. Oui, oui, oui. Sinon, bon, c'est pas la peine. Sinon, c'est pas gagné. Moi, je crois que c'est comme je dis toujours que il est important pour quelqu'un, quand la personne va vers une autre personne, accepter l'autre telle qu'elle est et de dire à l'autre exactement qui il est. Je n'ai pas envie de jouer, je ne veux pas ressembler à ce qu'on attend de moi.
Et vous avez pu toujours le faire, ça ?
Non, peut-être qu'au début, je ne le faisais pas. Mais au fur et à mesure, en tout cas, je sais que l'expérience Kassav m'a appris ça, en tout cas, a profondément changé ma façon de me voir. C'est-à-dire que je m'affirmais. Voilà, je m'affirmais. Je n'étais pas en train d'essayer de séduire, mais en train simplement d'être meilleure et pour moi. Et parce que quand j'arrive en face de l'autre, je lui dis, mais je suis comme ça. Et je pense être bien.
Oui, il faut le prendre comme c'est.
Voilà, tout simplement.
Chanter dans notre langue, c'est valoriser notre langue, c'est nous donner un autre état d'esprit de nous-mêmes et c'est nous aimer et montrer qu'en fin de compte, en étant nous-mêmes, eh bien, on est beau, on est fort, on est intelligent et on parle que notre musique n'est pas simplement du folklore, que nos us et coutumes ne sont pas de mauvaises habitudes et que notre langue est une langue. Et cette langue-là, eh bien, elle peut exprimer la douleur, elle peut exprimer la peine, elle peut exprimer la joie, elle peut exprimer l'amour. Quand Maoteli chante « Ti doudou belle créati », mais ça c'est extraordinaire. Belle créati, si moi gade deye,
c'est pas qu'on y est. Il était très difficile d'exprimer ses sentiments en créole, l'amour.
Mon père aimait ma mère, il s'aimait. Il lui a jamais dit qu'il l'aimait. On ne parlait pas d'amour. On ne savait pas parler d'amour.
Et Kassav arrive et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rentrer de l'intimité dans le créole. Et ça, c'est une nouveauté, on n'a jamais entendu ça.
Cette valorisation-là, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça nous a fait beaucoup de bien.
C'est encore un extrait de ce documentaire sur Kassav et 40 ans de parcours réalisé par Benjamin Marquet. On entend trois personnes, Elie Domota, Éric Virgal et Rudy Benjamin, dire non seulement l'importance d'entendre chanter en créole, mais l'importance d'entendre chanter des mots d'amour et de tendresse en créole. Je vous avoue que très naïvement, j'ai été étonnée d'apprendre que cette langue-là, qui était très interdite et donc j'imaginais qu'elle était parlée dans l'intimité, n'était pas une langue où l'on chantait justement cette tendresse et cette intimité. C'est paradoxal d'une certaine manière. Cette langue interdite, découverte comme ça, presque en piraterie dans les cours d'école, dans les rues, mais qui ne servait pas à chanter l'amour et la tendresse.
C'est-à-dire que certains le faisaient, très peu. Dans la Biguine et la Mazurka, il y a eu deux ou trois compositeurs qui ont composé des chansons d'amour en créole. Mais bon, c'était un peu calqué sur les chansons, la façon d'écrire les chansons en français, quoi. Mais pas toujours. Mais enfin, il y a deux ou trois qui excellaient en la matière. Mais globalement, je veux dire, les groupes populaires ne chantaient l'amour quasiment qu'en français. Ouais, parce que le créole était considéré comme la langue du juron. C'était les jurons français qui arrivaient chez nous, comme le mot de Cambronne et compagnie, ils ne faisaient aucun effet sur les gens chez nous. Par contre, les jurons bien de chez nous, là, bien salés et compagnie, là, ça pouvait se terminer en bagarre sérieuse.
Voilà, mais il y a quelqu'un d'ailleurs dans le documentaire qui dit « ma mère m'engueulait en créole ». Et pour moi, pendant très longtemps, fait, c'était une façon... Le créole était rattaché à une forme d'autorité maternelle, de se faire rouspéter et pas du tout des mots de tendresse.
Mais souvent, on se moque les uns des autres en disant que dès qu'on est fâché, on passe dans la langue maternelle, c'est-à-dire on passe en créole.
Oui, c'est la langue de l'émotion.
À partir du moment où on est en colère, ça se passe en créole. Et donc c'était une langue qui était la langue du négatif pour beaucoup de gens. Et comme il y avait cette langue se francisait de plus en plus, il y avait le risque de créolisme dans la langue française. Or pour les gens de chez nous, quand on voulait justement être érudit et compagnie, il fallait possédait la langue française bien mieux que le français lui-même, quoi. Donc, on l'apprenait avec toutes ses règles de grammaire. Et il valait mieux pour certains ne pas parler le créole pour ne pas faire de créolisme en français. Mais il y a les langues régionales. Moi, je veux dire, bon, c'est... Il y a des expressions créoles que j'adore dire en français, comme Chamoiseau le fait dans ses écrits, parce que c'est ce qui donne notre essence, c'est ce qui parle de nous, c'est ce qui fait remuer le ventre, c'est ce qui vous renseigne sur la couleur, les odeurs, le moment de la journée, etc. Quoi, voilà.
Et c'est pour ça dire qu'une chanson d'amour n'est pas anodine, j'y crois profondément, mais quand on est en mesure de chanter une chanson d'amour dans une langue qui est une langue à soi, on entendait trois hommes dire combien ça avait changé leur vie.
C'est vrai.
Ben, c'est-à-dire que la langue maternelle, c'est la langue de l'émotion. Si vous parlez breton ou occitan ou corse, ou si quelqu'un marche sur votre pied, de toute façon, la première insulte qui va venir dans votre langue maternelle. Après, vous allez réfléchir, non, il faut le dire en français. Bon, mais de la même façon, si vous voulez lui envoyer de l'amour, ça va venir dans la langue maternelle, parce que c'est la langue qui est, je sais pas comment dire ça, mais qui dégage le plus d'émotions. Comme elle dit, si vous insultez quelqu'un en français, oui, bon, mais il vous regarde, ouais, bon, sympa. Si vous l'insultez dans votre langue maternelle, même s'il ne comprend pas la langue, il va sentir que là, il y a un certain niveau de ressenti.
Une profondeur.
Voilà, il y a de la profondeur, il y a... Voilà. Et je pense que de la même façon, si un Russe, un Espagnol, quelqu'un qui parle une langue que vous ne parlez pas, vient vous parler d'amour, vous ne comprenez pas un mot de ce qu'il dit, mais en tout cas, vous sentez que là,
on
il parle
l'intention.
D'amour.
Ouais. En 1979, à la création, donc ce mot-là, il est choisi, il fait très directement référence à un vécu créole, même plus qu'à en fait, à une langue créole. C'est une question qui s'est posée entre vous, savoir dans quelle langue vous alliez chanter, ou est-ce que d'emblée, il était évident que vous chanteriez créole?
C'était évident, parce que la personne qui a trouvé cette idée de Pierre-Édouard Décimus, il y a beaucoup réfléchi avant qu'il y ait la première note de musique. Par exemple, quand il m'a rencontré, c'était pour faire de la musique. On a parlé pendant un an avant qu'il y ait une note qui sorte.
C'est vrai?
Ben oui, parce qu'il m'expliquait son point de vue. Alors, c'était presque de la politique, quoi. C'est comme s'il me disait, ben voilà, moi je vois ça comme ça, je vois ça comme ça, je vois ça comme ça. Tiens, écoute ça, je trouve ça bien, ça,
pourquoi
je trouve pas ça bien.
Pourquoi vous dites presque?
Ben parce que, bon, c'est vrai que, bon, dès qu'on fait de la musique, dès qu'on a un micro, c'est de la politique. Mais là, on parlait de musique. Donc, a priori, quand on parle de musique, quel que soit, j'aurais pu être de droite, de gauche, du centre, de n'importe où, bon, ça posait pas de problème. Mais lui, il avait son point de vue sur la chose. Vous savez, la plupart des groupes, ce sont des copains d'école, des cousins, des frères et sœurs. Bon, là, non, pas du tout. C'était une idée, un concept auquel il a réfléchi, lui et d'autres gens, quoi, et qui correspondait à une période, les mouvements identitaires. Et puis après, il s'est dit, bon, maintenant, on va s'y mettre, on va faire de la musique. Mais la musique, il faut qu'elle ait tous ces critères-là. Alors là, on a cherché des gens, on a été les chercher là où ils étaient, pour essayer de faire les premiers essais, on cherchait. Puis il y en a d'autres qui ont entendu donc les premiers essais. C'était pas un succès populaire, c'était pas un succès commercial. Mais ils ont entendu, ils ont dit, ça y a une aventure qui se prépare là-bas, je veux être dedans. Vous voyez? Donc il y a eu plein de choses. Et puis au fur et à mesure, ces gens-là sont venus parce que c'était ça, parce que c'était comme ça. Pas parce que c'était un groupe à succès, non, c'est parce que c'était un groupe qui faisait un truc intéressant. Oui, alors ça chantait en créole, ça parlait de certains sujets d'une certaine façon, ça faisait la musique d'une certaine façon qu'on n'avait pas encore entendu à l'époque, et voilà, ça a intéressé, et c'est ce qui a intéressé aussi, je pense, des musiciens étrangers. Quand ils ont écouté notre musique, ils se sont dit, tiens, ça c'est intéressant. On aurait fait simplement du rhythm and blues ou la musique du moment, bon, ouais, ça ils ont ça chez eux.
Benjamin Marquet, dans ce documentaire, il fait aussi entendre cette idée selon laquelle Cassav, c'est toute la richesse et toute l'ambiguïté française. Par exemple, les récompenses qui vous ont été attribuées. Vous disiez, Jacob Desvarieux, on a mis longtemps à passer à la télévision, puis un jour vous êtes passé sérieusement. Enfin, pas un jour, mais plusieurs jours. Et puis vous obtenez la victoire du meilleur groupe français. Puis quelques années après, ou même l'année d'après, d'un seul coup, vous revoilà revenu dans la World Music catégorie. Sacrée ambiguïté française.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'il y a même pire que ça. C'est que nous, on a été élus, donc à l'époque, meilleur groupe français. Je vois tous ceux qui sont passés après nous, en fait, qui sont issus du tiers-monde d'une façon ou d'une autre. C'est meilleur groupe, tout sauf français. C'est meilleur groupe, quelque chose.
Musique urbaine.
Ils ont du mal encore à nous intégrer, quoi.
Et vous, est-ce que c'est une question importante pour vous?
Non.
finalement non, hein, parce que...
Non, parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Je me dis, bon, les gens vont comprendre. Je crois que l'idéal est de pouvoir, quelque part, entre guillemets, éduquer les gens. Si on se braque et qu'on est en colère, c'est nous que ça détruit. Si on les engueule, c'est la guerre qu'on déclare. Donc, c'est bien faire elle, c'est-à-dire continuer notre chemin et surtout éduquer les jeunes et leur dire que bon, ce monde est beau parce que les gens sont différents et que la différence, c'est quelque chose de d'enrichissant et que qu'aller voir l'autre, eh ben ça rend la vie intéressante, quoi, tout simplement. Voilà, c'est moi c'est comme ça que je vis. J'adore aller ailleurs, rencontrer les gens, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, ce qui comment ils les tableaux qu'ils font, je sais pas moi, la musique qu'ils ont, etc., etc. C'est ça qui m'enrichit et qui me permet, moi, de me développer. Ça nourrit ma créativité, etc., etc. Donc, passer à côté de ça, c'est se réduire à un tuyau, quoi. Je veux dire, on marche là et puis on fonctionne comme ça. Et c'est triste. C'est triste.
Voilà. Moi, ça nous a rendu un service. C'est que le fait que les médias ne nous considèrent pas peut-être comme il devrait ou comme il faudrait, ben ça nous a permis d'aller essayer un peu plus loin, de voir des choses, ou de se dire, ben la France est le centre du monde, il faut absolument qu'on arrive à faire ça, ça et ça. On a vu ça au niveau européen. Par exemple, on fait plus de monde à Bruxelles qu'à Marseille, on fait plus de monde à Londres qu'à Bordeaux, on fait plus de monde à Lisbonne qu'à Grenoble, on fait etc. Dans toutes les grandes villes françaises, ou dans les grandes villes européennes, on fait plus de monde, à part Paris. Et puis après, on a vu ça au niveau mondial. On s'est dit, on fait plus de monde à New York qu'à, je sais pas, il faut vous citer Lyon, par exemple. Bon. Donc c'est pas grave. Mais on fait du monde à Lyon quand même. Mais
et bon,
si on est plus considéré, par exemple, quand on est à New York, on est considéré comme un groupe français. Quand on est en France, on est considéré comme un groupe. Comme un groupe. C'est-à-dire que c'est le monde après qui a du mal à sortir, vous voyez. Même les médias qui parlent du Stade de France, quand ils disent voici les artistes français qui ont rempli le Stade de France, voici les artistes francophones qui ont rempli le Stade de France, voici les artistes internationaux qui ont rempli le Stade de France, et nous on attend toujours que notre nom arrive, et pourtant on l'a rempli.
On n'a qu'à dire Cassav.
Oui, Cassav a rempli le Stade de France, point. Moi ça me va. Hein.
Ouais, et Cassav sera le 11 mai pour fêter en grande pompe et en grande joie, j'espère, ses 40 ans de carrière. On dit quoi? La Défense Paris Arena? Paris La Défense Arena?
Oui, bon, le mélanger comme
Paris
vous
La Défense Arena. Paris La Défense Arena. Mais aussi au Festival Jazz à Vienne le 7 juillet ou encore au Festival Tempo Latino à Vic, Fezensac le 26 juillet. Un grand merci à tous les deux, Jacob Desvarieux, Jocelyne Berroir, d'avoir été avec nous dans Par les temps qui courent. Je dis aussi qu'il y a un best-of Cassav 40 ans, qui sort chez Wagram.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus.
Ok.
À la prise de son ce soir, c'était Tard, Bouclifa, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Valentin Rémy, Marianne Chasseur qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les soirs. Dans un instant, 22h, c'est le journal. FranceCulture.fr, Par les temps qui courent pour le podcast et les informations. À demain.
Changer, t'es rien de comme un an, la diapété. Si on te connaît, musique en nous, je t'ai qu'à goûter ça qui l'amour. En tout cas, t'es moi.